France Culture.
C'est très difficile d'enseigner l'histoire autrement que par une histoire qui est en effet, sûrement même, très largement légendaire. Mais au moins fournissait-elle un socle, des images, des rêves, des héros. Et après tout, on ne peut pas non plus raconter l'histoire à des enfants sans héros, sans personnages. C'était un socle.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
C'est quoi un roman national ? Pourquoi utilise-t-on ce vocabulaire tout littéraire pour désigner la manière dont un pays se raconte à travers le discours de ses dirigeants ? Quel impact concret peuvent avoir ces récits ? De quelle histoire se réclament-ils ? Que nourrissent-ils comme imaginaire ? En s'appuyant sur l'analyse du mythe d'une France exceptionnelle, héritière des Lumières et de la Révolution, Olivier Lecourt-Grandmaison se propose, je cite, d'exhumer les origines de ce roman pour rendre compte des conceptions et des intentions de ses premiers rédacteurs. Pourquoi, depuis la Troisième République, l'établissement et la transmission de ce roman national est érigé en priorité politique et quels emprunts y a-t-il aux dynamiques de la création littéraire ? Sur quel personnage, par exemple, s'appuierait ce roman ? Autant de questions à la frontière, on l'entend d'emblée, de questions d'écriture au sens large, mais surtout de politique. Olivier Lecourt-Grandmaison est notre invité. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Olivier Lecourt-Grandmaison.
Bonjour.
La fabrique du roman national républicain a paru aux éditions Amsterdam. Soyez le bienvenu dans le Book Club, c'est le livre qui est au prétexte de notre invitation. Mais il y a un autre livre tout juste sorti en librairie hier qui s'appelle « Oradour coloniaux français contre le roman national ». Et cette fois-ci, c'est au lien qui libère. Alors je le disais, il y a l'utilisation d'emblée d'un terme qui a à voir avec le champ littéraire, ce roman national, avant qu'on le déplie, avant qu'on ne parle du contexte aussi, au moment où se consolide ou s'invente ce roman national. Qu'est-ce que nous permet d'emblée de penser le recours à ce vocabulaire-là, le roman ?
Alors l'utilisation du syntagme roman national a d'abord et avant tout pour objectif, en tout cas en ce qui me concerne, d'établir une distinction très nette entre ce qui relève d'un récit et d'un récit dont on verra qu'il est largement apologétique, qu'il est mythologique, qu'il repose sur un certain nombre de mythologies spécifiques, notamment la mythologie de l'universalisme, la mythologie de l'exceptionnalisme, et ce que j'appelle aussi la mythologie humanitaire, qui est d'une certaine façon une conséquence des deux premiers.
On redéfinira évidemment ces trois.
Absolument. Et il s'agit donc de distinguer cela de ce qui relève d'un souci de connaissance.
Donc de l'histoire ?
Donc de l'histoire, mais de l'histoire en précisant que cet ouvrage n'est pas uniquement un ouvrage qui s'appuie sur des documents historiques parce que le roman national, contrairement à ce qui a souvent été écrit et dit, n'a pas été seulement rédigé par des historiens. En fait, ce sont les élites politiques, mais également les élites académiques au sens de l'Académie française, mais aussi les élites universitaires qui, beaucoup d'entre elles, ont participé à l'élaboration de ce roman. Je pense en particulier à des géographes, alors aujourd'hui inconnus ou plus connus, mais qui sont à l'époque très importants. Je pense à des sociologues. Émile Durkheim a joué un rôle significatif dans l'élaboration d'une pédagogie destinée à faire valoir et à faire entendre dans l'institution scolaire ce roman national. Je pense à l'un des fondateurs de la science politique, André Siegfried. Et je pense à un grand philosophe, Henri Bergson, qui, faute de pouvoir combattre pendant la Première Guerre mondiale en raison de son âge, décide d'investir le champ philosophique pour apporter la démonstration selon laquelle, relativement à l'Allemagne, la France est évidemment en matière philosophique supérieure parce qu'elle est réputée être la digne héritière et au fond presque la seule héritière des Lumières.
Ce n'est pas le seul mot qu'on emprunte, syntagme qu'on emprunte au champ littéraire, puisque vous parlez aussi de l'importance des personnages qui sont convoqués dans l'établissement de ce roman national et sa transmission. Qu'est-ce que ça nous dit là aussi, la nécessité d'avoir des personnages? On entendait aussi en début d'émission Mona Ouzouf parler de héros. Pourquoi est-ce que c'est un bon outil, ce personnage-là? Ça l'est en littérature, de toute évidence.
Alors, effectivement, de ce point de vue-là aussi, le roman national emprunte beaucoup à la littérature et je pense plus spécifiquement à un manuel qui est un manuel fondamental de la Troisième République, qui a connu près de 7 millions d'exemplaires, avant la Première Guerre mondiale, qui est Le Tour de France de deux enfants, rédigé par une autrice, mais qui a pris le pseudonyme d'un philosophe italien. Et ce manuel est très important parce qu'il est particulièrement novateur. Novateur parce qu'il mobilise une iconographie très importante qui permet de mettre en valeur à la fois des paysages, mais bien sûr des personnages, et parce qu'il mobilise effectivement une multitude de personnages supposés ou qui doivent incarner la grandeur de la France dans différents domaines. Jeanne d'Arc, bien sûr, Montaigne dans le domaine de la philosophie, Descartes, évidemment, Montesquieu, et ainsi elle remonte dans le temps, ce qui permet de brosser le tableau d'une France presque toujours admirable, presque est superfétatoire, toujours admirable parce que productrice, à la différence d'autres nations, d'une série très importante, de très grands hommes, et de quelques femmes. À dire vrai, la seule femme qui émerge dans ces personnages, c'est Jeanne d'Arc, qui devient le symbole de la résistance, de la résilience, dirait-on aujourd'hui, et qui, en dépit de sa fin, devient également le symbole du courage, de ce qui est supposé être l'une des caractéristiques françaises.
On va beaucoup parler du 19e siècle avec vous, parce que vous faites de cette période-là et du post-1870 le moment où s'élabore ce roman national avec puissance. Est-ce que le mot roman est déjà utilisé à ce moment-là ?
Alors, à ma connaissance, non. Mais effectivement, la fin du 19e et le début du 20e siècle, pour des raisons sur lesquelles j'imagine on reviendra, est un moment absolument fondamental, et du point de vue de l'élaboration, de la diffusion, un moment matriciel de ce roman national républicain, dont il faut préciser qu'il va perdurer tout au long de la Troisième République, de la Quatrième et de la Cinquième, puisqu'aujourd'hui encore, des très hauts responsables de l'État, Emmanuel Macron pour ne pas le citer, reprennent à la fois des syntagmes, des images, un langage hyperbolique pour entretenir sans fin l'opinion selon laquelle, évidemment, la France est une nation exceptionnelle, et exceptionnelle par sa grandeur, son universalisme et la beauté, la magnificence de ses productions, notamment intellectuelles et culturelles.
Oui, en cela, la fabrique du roman national républicain a une inscription historique. Donc, dans la fin du 19e, Olivier Lecourt-Grandmaison, mais à tout moment, vous montrez que l'utilisation et la performance de ce roman national, elle est tout à fait d'actualité aujourd'hui, et c'est aussi pourquoi s'intéresser à ces termes-là et avoir les outils critiques vis-à-vis de cette entreprise-là est une nécessité contemporaine. On a parlé de la place des élites politiques, philosophiques, intellectuelles, économiques. Qu'en est-il de l'élite littéraire, ou de ceux qui écrivent, eux, des vrais romans, entre guillemets, Olivier Lecourt-Grandmaison, dans cette entreprise-là? On va entendre dans un instant un extrait d'un texte d'Émile Zola, mais quelle place ils prennent ou elles prennent? Alors, les romanciers, les romancières.
Je reviendrai éventuellement sur le texte d'Émile Zola. Alors, je me suis moins intéressé aux romanciers et aux romancières qu'aux discours qui sont tenus sur la littérature française, qui sont des discours, là aussi, là encore, apologétiques, où il s'agit de faire entendre, notamment contre l'Allemagne, mais aussi contre d'autres pays, si je puis dire, notamment l'Italie et l'Espagne, et la Grande-Bretagne.
La grandeur.
Il s'agit de faire entendre ceci, que la littérature française est évidemment supérieure à toutes les autres en raison de son universalisme. Et on y reviendra peut-être, en raison également de sa langue. Parce qu'il y a de très nombreux textes et discours également pour signifier que la singularité du français, et donc lorsqu'il est écrit sous la forme de roman ou sous la forme de poème, la singularité du français serait d'être la langue des Lumières, la langue de la raison, la langue de l'universel, et qu'à ce titre, elle est inscrite, cette langue, dans une hiérarchie des langues, mais qui est aussi une hiérarchie des caractères, une hiérarchie nationale. Et bien sûr, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Cette langue se trouve au sommet de la hiérarchie des langues.
Et on montrera aussi tout à l'heure combien cette hiérarchie des langues peut servir dans une cascade de démonstrations à une hiérarchie des peuples ou une hiérarchie des races. Cela va ensemble, mais on y viendra. Le texte que vous citez, c'est La débâcle d'Émile Zola, 1892, la date de publication. C'est le 19e volume de la série des Rougon-Macquart. Il conclut historiquement cette série-là, et on entend le personnage de Jean Macquart qui regarde comme ça la ville de Paris brûler. «
Jean, plein d'angoisse, se retourna vers Paris. À cette fin si claire d'un beau dimanche, le soleil oblique, au ras de l'horizon, éclairait la ville immense d'une ardente lueur rouge. On aurait dit un soleil de sang sur une mer sans bornes. Les vitres des milliers de fenêtres brésillaient, comme attisées sous des soufflets invisibles. Les toitures s'embrasaient telles que des lits de charbon. Les pans de murailles jaunes, les hauts monuments en couleur de rouille, flambaient avec les pétillements de brusques feux de fagots dans l'air du soir. Et n'était-ce pas la gerbe finale, le gigantesque bouquet de pourpre, Paris entier brûlant, ainsi qu'une fascine géante, une antique forêt sèche s'envolant au ciel d'un coup, en un vol de flamèches et d'étincelles. Il lui sembla, dans cette lente tombée du jour, au-dessus de cette cité en flammes, qu'une aurore déjà se levait. C'était bien pourtant la fin de tout, un acharnement du destin, un amas de désastres tels que jamais nation n'en avait subi d'aussi grand. Les continuelles défaites, les provinces perdues, les milliards à payer, la plus effroyable des guerres civiles noyées sous le sang, des décombres et des morts à plein quartier, plus d'argent, plus d'honneur, tout un monde à reconstruire. Lui-même, il laissait son cœur déchiré. Maurice, Henriette, son heureuse vie de demain emportée sous l'orage. Et pourtant, par-delà la fournaise hurlante encore, la vivace espérance renaissait au fond d'un ciel calme, d'une limpidité souveraine. C'était le rajeunissement certain de l'éternelle nature, de l'éternelle humanité, le renouveau promis à qui espère et travaille, l'arbre qui jette une nouvelle tige puissante quand on en a coupé la branche pourrie, dont la sève empoisonnée jaunissait les feuilles. Dans un sanglot, Jean répéta « Adieu ». Henriette ne releva pas la tête, la face cachée entre ses deux mains jointes. « Adieu ». Le champ ravagé était en friche, la maison brûlée était par terre. Et Jean, le plus humble et le plus douloureux, s'en alla, marchant à l'avenir, à la grande et rude besogne de toute une France à refaire.
Un extrait de la débâcle 1892, Émile Zola, et on l'entend à la fin de ce paragraphe que vous citez vous-même, Olivier Lecourt-Grandmaison, « Toute une France à refaire ». Est-ce que c'est dans ce « refaire une France » ou c'est à ce refaire, l'impératif de refaire une France que répond l'impératif de créer le roman national ?
Oui, alors, préciser peut-être avant que le roman d'Émile Zola ne participe absolument pas à l'élaboration et à la diffusion du roman national. Ce roman a été très mal reçu, en partie, enfin, par certaines parties des élites politiques et militaires, notamment parce que Émile Zola est très sévère à leur endroit. Et Émile Zola rappelle dans la conclusion, et peu avant le passage qui a été cité, il emploie cette expression, les journaux bourgeois, je cite, appelés à l'extermination. Et préciser que lorsque Zola utilise le terme extermination, qui est très fort, ce terme n'est pas un synonyme de génocide, évidemment. Il ne va devenir synonyme de génocide qu'après 1945. Et il désigne à l'époque des massacres de masse. Et Zola est parfaitement conscient, il le dit d'ailleurs dans l'extrait, de l'extraordinaire brutalité de la Commune de Paris et des Versaillais. Il n'en reste pas moins qu'il formule effectivement une sorte de diagnostic, toute une France à refaire, qui est partagée par de nombreuses élites politiques et intellectuelles. Le diagnostic est partagé, les solutions, elles, ne le sont pas forcément. Il y a même des divergences très substantielles. En tout cas, effectivement, dans le cadre de cette France à refaire, ce qui va être une des leçons qui va être tirée par ces élites politiques et universitaires, va être le roman national, qui est une façon de refaire un corps politique, un corps symbolique, un corps national, de façon à dépasser, et Zola est très sensible à ça, à dépasser les haines nationales. Et pour dépasser les haines nationales, l'un des objectifs de ce roman national est de construire une image de la France et de la République comme image, et la métaphore est constamment utilisée, celle de la mère, de la mère nourricière.
M-E-R-E,
exactement. Et cette mère, elle doit être aimée, évidemment. Et il s'agit de faire en sorte que les citoyens, et en commençant par les élèves, bien sûr, de l'institution scolaire, aiment cette France. Et pour faire aimer cette France, il faut évidemment en dresser un portrait admirable qui permette de l'aimer. Et je montre qu'en fait, cet amour doit être plutôt pensé comme une dévotion, mais passons. Et l'un des objectifs,
voire
effectivement...
Une passion serve, vous dites, quelque chose qui est vraiment une manière de servir la France sous découvert d'amour.
Oui, parce que l'amour, lorsqu'il est éprouvé entre adultes, et c'est pas forcément une question d'âge, est évidemment pour partie conditionné à la personne de l'être aimé, qui ne l'est pas de façon intangible et absolue. Encore faut-il qu'elle donne des signes et qu'elle ait des comportements, des caractères, des prises de position qui lui permettent de continuer à être aimé et donc être aimable. En ce qui concerne la dévotion, cette dévotion est pensée effectivement comme absolue, intangible.
Envers et contre tout.
Envers et contre tout, et quoi que fasse la France, comme elle est supposée être toujours admirable, elle doit être constamment aimée, et en fait, il s'agit plutôt de dévotion. C'est pourquoi il me semble en effet adéquat de considérer que cette dévotion est une passion serve, parce qu'il s'agit effectivement, au fond, pour le dire en ces termes, de plier les citoyens à cette dévotion et d'entretenir sa dévotion qui débouche sur toute une série de devoirs. Des devoirs d'amour, c'est ainsi que c'est appelé, des devoirs de service de la patrie, et bien sûr, pour les hommes, des devoirs de mourir pour la patrie. Puisque cette patrie étant admirable, on doit, effectivement, si elle doit être défendue, on doit être capable de mourir pour elle. Et pour les hommes de la Troisième République, c'est mourir pour la patrie est évidemment lié à un objectif qui n'est pas pour le moment déterminé, mais dont ils savent qu'à un moment donné, il devra être poursuivi. C'est évidemment la reconquête des territoires perdus au cours de la défaite devant les armées prussiennes, l'Alsace et la Lorraine, bien sûr.
On va y revenir justement sur ce que ça sous-entend, mais un instant, vous dites le constat est partagé d'une France entière à refaire. On est dans le désastre, il y a quelque chose qui est dévasté, alors tout le monde n'a pas la même solution à proposer. Est-ce que la solution du roman national, elle vient comme à égalité des autres solutions, Olivier Lecourt-Grandmaison, c'est-à-dire que je vous interroge sur la puissance de cet outil-là et ce qu'on lui prête comme capacité.
Alors, la puissance du roman national, elle n'est pas simplement liée à des textes. Et bien sûr, elle est liée à des textes, elle est liée à des manuels, elle est liée à des discours et à des discours de personnalités politiques extrêmement importantes. Mais cette puissance ne peut être véritablement comprise que si on saisit qu'elle est institutionnalisée. Mmh. Et cette institutionnalisation du roman national passe par l'école, par la construction de l'école publique laïque et obligatoire, et par un certain nombre de textes, notamment un arrêté de 1881 qui est extrêmement précis et qui fixe les objectifs qui doivent être ceux des instituteurs. Et parmi les objectifs qui doivent être ceux des instituteurs, il y a évidemment la diffusion du roman national et plus précisément la diffusion de toute une série de devoirs et globalement, pour aller à l'essentiel, il s'agit à la fois, certes, d'instruire, mais aussi beaucoup, il s'agit d'éduquer et de moraliser, notamment parce que le rapport qu'entretiennent les élites politiques, universitaires et académiques aux classes pauvres sont des rapports qui définissent ces classes pauvres comme des classes dangereuses. Mmh. Et inutile de préciser, ou est-il besoin de préciser, que pour les fondateurs et premiers dirigeants de la Troisième République, le spectre de la sociale, avec un S majuscule et qui désigne à l'époque la Révolution, n'est pas un spectre évanescent et lointain. Ils ont été les acteurs, parfois, pour massacrer. Ils ont été les spectateurs atterrés de ces massacres, comme Émile Zola. Et ils sont obsédés, pour le dire en ces termes, par ceci que, pour eux, la République, enfin, doit pouvoir mettre un terme à la Révolution, ce que les deux premières n'ont pas réussi à faire. Et le roman national participe de cette volonté d'en finir avec la Révolution et de faire la démonstration que la République est compatible avec la stabilité politique, sociale et institutionnelle.
Et vous semblez souligner qu'il y a comme un moment particulier quand même, Olivier Lecourt Grandmaison, dans cette Troisième République, d'une association entre ce souci-là et la promotion de ce roman national. Mais pour autant, en vous écoutant, je me dis, mais la politique et toute personne qui a à diriger une collectivité, quelle que soit sa taille, s'est toujours soucié du récit. C'est toujours un outil qui a été utilisé. Comment on se raconte, qui nous sommes, comment nous faisons corps. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau et de spécifique à ce moment-là?
Alors, ce qui est nouveau et spécifique, et ce qui me paraît nouveau et spécifique, c'est, et d'ailleurs c'est en partie dénoncé et critiqué très tôt, c'est le ralliement de l'écrasante majorité, disons la majorité, des élites académiques et universitaires à l'écriture de ce roman national républicain. Ce que j'indiquais tout à l'heure, ce ne sont pas simplement des historiens. Il y a dans tous les champs disciplinaires, pour le dire en ces termes, des hommes, parce que faut-il le rappeler, la République, la Troisième République n'est pas particulièrement
mixte.
On est même en présence, pour le dire en ces termes, d'un véritable sexisme républicain. Je veux dire par là que l'exclusion des femmes de la cité ne relève pas d'éléments de conjoncture, même si ça peut s'appuyer sur la conjoncture, ça relève de véritables représentations. Les femmes sont pensées comme des mineurs.
Ça pourrait presque participer au roman national, cette exclusion.
Absolument. Les femmes sont considérées comme des mineurs du point de vue de l'usage de la raison, y compris par des philosophes très importants de l'époque, et la conséquence de cette affaire étant qu'il est parfaitement légitime, par conséquent, que ces femmes ne soient pas citoyennes.
On va continuer de parler du roman national avec cette reprise d'un classique, un grand classique de la grande chanson française de Charles Trenet, par le chanteur franco-algérien Rachita. Ici déploie justement le vocabulaire qui est un des aspects essentiels que vous évoquiez, le vocabulaire de l'amour et de la France comme mère patrie, sur laquelle on va revenir juste après la musique. Je cite « Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieille chanson d'autrefois ».
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, chère pays de mon enfance, bercée de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un roman pas vraiment publié aujourd'hui dans votre Book Club, mais très public. Un roman aux implications politiques fortes, j'ai nommé le roman national. Cette expression, couramment utilisée ces derniers temps, notamment dans le discours politique, et qui désigne l'ensemble des récits qui fondent prétendument le sentiment national et éventuellement la spécificité nationale et éventuellement la supériorité nationale. Olivier Lecourt Grandmaison, vous en proposez une analyse dans votre dernier ouvrage paru aux éditions Amsterdam, La fabrique du roman national républicain. On continue d'en parler avec vous. On entendait la reprise, évidemment à la fois sincère et ironique, de Rachid Taha, de ce grand classique de la chanson française. et qui fait entendre dans la chanson de Charles Trenet l'idée de cette douce France, de cette France maternelle, tu es dans mon cœur, je t'aime. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez développé rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire la place de l'amour et du vocabulaire de l'amour, et plus encore de l'amour filial dans ce roman national?
Alors effectivement, pour refaire un corps national, politique, symbolique à une nation qui en fait n'en est pas vraiment une au sortir de la Commune de Paris, qui est déchirée par la haine des Versaillais, et les contemporains sont très sensibles au fait que les vaincus ne peuvent évidemment éprouver à l'endroit des vainqueurs qu'une haine réactive, colère et indignation. Et par conséquent, l'exaltation de la France comme mère nourricière, comme mère politique, symbolique, joue un rôle extrêmement important, et on peut suivre cela notamment à travers les manuels où l'amour maternel, l'amour pour la patrie plus exactement, est mis systématiquement sur le même plan que l'amour maternel. Ce par quoi cet amour pour la patrie se transforme évidemment en un devoir politique, en un devoir moral, pensé comme ayant au fond la même importance, la même force et la même pesanteur que les devoirs filiaux. Et lorsqu'on travaille sur un certain nombre de manuels, je pense notamment à celui précité, le Tour de France de deux enfants, c'est permanent. Enfin, l'autrice met en récit ce manuel en proposant un tour de France à deux enfants et qui découvre donc les différentes provinces de France, et à chaque découverte s'émerveille évidemment à la fois de la beauté des paysages, du travail des ouvriers, du travail des paysans, et s'émerveille aussi de la grandeur des personnages qui ont vécu dans ces différents territoires comme on dit aujourd'hui. Et s'émerveillant de l'ensemble, ils disent à plusieurs reprises et ils manifestent, c'est évidemment ce qu'il s'agit aussi de transmettre, leur amour pour cette patrie absolument extraordinaire et qui se situe au sommet, effectivement, de la civilisation et des arts.
Et justement, vous parlez du sommet de la civilisation. Il y a quelque chose dans ce roman national qui a à voir avec la langue de ce roman national, la langue du pays français, la langue française. On écoute Jacques Duron, en 1964, parler de la clarté de la langue française.
La langue française est universellement reconnue comme étant la langue la plus claire du monde, c'est-à-dire celle qui énonce le plus intelligiblement le lien des idées entre elles et qui respecte le plus naturellement cette obligation première du langage qui est la communication avec autrui. Alors ça, c'est un point que j'ai découvert moi-même. Je ne le savais pas avant d'avoir préparé cette conférence. Je ne savais pas à quel point le français oblige celui qu'il parle à être clair et à penser aux autres, à penser à celui qui l'écoute. L'on n'est fait que pour être entendu, disait La Bruyère. Et c'est vrai, le français est une langue qui, elles n'ont pas toutes cette exigence intérieure, mais le français a cette exigence. Le français est une langue où il s'agit d'être compris d'autrui. D'autres langues incitent celui qui les parle à s'exprimer, à dire ce qu'on pense, mais peu importe qui comprenne. Le français pense tout de suite à l'auditeur.
Si je l'avais su, disiez-vous en écoutant cet archive de Jacques Duron, je l'aurais cité. Il y a là, en effet, dans cette définition de la langue française et son évidente supériorité, il y a aussi le mot « naturellement » au-dessus, quelque chose qui vous semble être un invariant du roman national français, Olivier Lecourt-Grandmaison.
Oui, c'est un invariant. Alors, c'est un invariant extrêmement puissant, d'autant plus puissant que les hommes de la Troisième République, en tout cas une partie d'entre eux, s'appuient sur des textes révolutionnaires et sur un rapport célébrissime de l'abbé Grégoire sur la langue, rapport dans lequel l'abbé Grégoire, entre autres, mais pas uniquement, considérait que le français était la langue des Lumières, la langue de la Révolution, la langue de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, et ce faisant aussi, bien sûr, ceci étant une conséquence de cela, la langue de l'universel. Et on retrouve, sous la Troisième République, parmi les élites politiques et universitaires, l'ensemble de ces éléments et de ces syntagmes, on a affaire à une sorte d'écolalie tout à fait surprenante, qui traverse, si je puis dire, les âges, la 3e, la 4e et la 5e République, qu'on retrouve notamment lors d'un discours d'Emmanuel Macron prononcé en 2024 à l'occasion de l'inauguration
de la Cité internationale de la langue française,
où Emmanuel Macron se livre à un grand discours inaugural, et on retrouve l'ensemble des thèmes qui ont été utilisés auparavant sous la 3e, la 4e République. Et alors effectivement, bien sûr, la supériorité de la langue, sa clarté, c'est pourquoi elle est pensée comme la
sa
langue...
Sa clarté, au contraire, dit le professeur des universités Jacques Durand, au contraire d'autres langues. C'est-à-dire que c'est pas seulement dire c'est très clair, mais c'est aussi plus clair que tout le monde.
Bien sûr, c'est plus clair que tout le monde parce que, et là, alors, l'utilisation de Descartes est particulièrement importante et significative, dans la mesure où la langue française est supposée être la langue de la raison, la langue des Lumières, ce par quoi, effectivement, elle s'inscrit au sommet de la hiérarchie, et elle est pensée comme ce véhicule universel ou prétendument tel qui va permettre la diffusion non pas seulement du français mais bien sûr de la culture et de la civilisation. Et on doit d'ailleurs à un géographe bien connu à l'époque le terme de francophonie. Et le français est pensé comme, on dirait aujourd'hui, au fond, déjà, même si le terme est évidemment pas employé, un soft power, comme un élément d'influence, comme un élément de prestige, avec un rôle, alors là, rappelé, là aussi, parce qu'on ne peut pas, c'est pas simplement, on n'a pas affaire à simplement à des discours. Mmh. On a affaire à une véritable institution. Et l'institution, au fond, qui défend les beautés supposément immarcessibles et la supériorité de la langue française. Alors, c'est à la fois l'école, mais c'est bien sûr l'Académie française, qui est pensée comme ce haut lieu de préservation du bon usage du français, mais pas simplement de conservation, mais comme ce haut lieu de diffusion aussi du français de par le monde.
Et on entend bien, Olivier Lecourt-Grandmaison, qu'il n'y a pas d'appareil de justification scientifique de cette hiérarchie. Ça ne fonctionne que par citation d'autres textes. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, en 2024, lui-même, cite Paul Valéry. Et citant Paul Valéry, il fait de sa démonstration quelque chose qui va, de toute évidence, je cite naturellement, je cite évidemment, proclamer la supériorité de la langue française. Ce n'est pas possible de dire que la langue française est au-dessus des autres langues.
On peut évidemment pas le dire comme ça, et surtout pas maintenant, parce que l'implicite de cette proposition serait, au fond, qu'effectivement, le locuteur ou la locutrice continue de partager et de véhiculer une représentation hiérarchisée du genre humain, ce qui est aujourd'hui inacceptable. Mmh. On a affaire, et c'est un élément assez fondamental, pour ne pas dire fondamental, du roman national républicain, à ce qu'on pourrait appeler, au fond, une série de coups de force rhétoriques et d'affirmations péremptoires, et de mobilisation d'arguments d'autorité. Et la meilleure façon de mobiliser des arguments d'autorité, c'est évidemment de convoquer de grands écrivains, de grands philosophes. Et un argument qui pèse plus encore, c'est de convoquer des philosophes et ou des écrivains étrangers qui reconnaissent effectivement les beautés immarcessibles de la langue française. Et dès lors qu'ils sont étrangers, ça prouve bien effectivement que cette langue est supérieure à toutes les autres.
Emmanuel Macron, dans ce discours, dit « langue havre, langue vivier qui servira toujours de passeport et de signe de ralliement à ceux qui se réclament d'une certaine communauté de valeurs et d'art de vivre. Il semble y avoir un pouvoir d'affranchissement propre à cette langue. Je cite « l'universalité, notre plus belle aspiration, souvent notre plus beau titre », disait Paul Valéry, et il ajoutait « observer ce paradoxe, avoir pour spécialité le sens de l'universel. Tous les ressorts semblent la déployer en 2024, mais comme 150 ans plus tôt, Olivier Lecourt-Grandmaison. »
Sur le fond, le discours d'Emmanuel Macron est d'une banalité à périr.
Vous dites que c'est un invariant.
Oui, alors c'est un invariant en précisant que ce qui fait aussi la puissance du roman national républicain, c'est qu'il s'adapte aux circonstances. Ou plus exactement, ceux qui le tiennent adapte ce roman aux circonstances et l'enrichissent en lui permettant, de perdurer et de continuer à avoir une efficacité performative en lui permettant aussi de continuer à être cru. Je veux dire par là, le propre du roman national républicain, c'est qu'il ne se présente justement pas comme un roman.
Au sens cru, croyance. Il est cru.
Absolument. Et le propre du roman national républicain, au fond, comme toutes les idéologies, puisque j'emprunte ce syntagme à un historien, il s'agit bien d'une mythe-idéologie. Et comme toutes les idéologies, ce roman national républicain ne se présente pas comme un roman. Il se présente comme une vérité historique, politique, juridique et en l'occurrence linguistique.
Dans un autre temps de votre livre et de votre travail, vous montrez combien ce roman national à partie liée, plus que partie liée, est intriqué avec la dynamique impériale de la France et la colonisation. Vous citez un extrait d'un discours de Jules Ferry dans à l'Assemblée nationale, on est en 1885, on l'écoute dans la voix de Cyril Marchand.
Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Est-ce que vous pouvez nier, est-ce que quelqu'un peut nier qu'il y a plus de justice, plus d'ordre matériel et moral, plus d'équité, plus de vertu sociale dans l'Afrique du Nord depuis que la France a fait sa conquête ? Quand nous sommes allés à Alger pour détruire la piraterie et assurer la liberté du commerce dans la Méditerranée, est-ce que nous faisions œuvre de forban, de conquérant, de dévastateur ? Est-il possible de nier que dans l'Inde, et malgré les épisodes douloureux qui se rencontrent dans l'histoire de cette conquête, il y a aujourd'hui infiniment plus de justice, plus de lumière, d'ordre, de vertus publiques et privées depuis la conquête anglaise qu'auparavant ? Est-il possible de nier que ce soit une bonne fortune pour ces malheureuses populations de l'Afrique équatoriale de tomber sous le protectorat de la nation française ou de la nation anglaise.
Vous parliez, Olivier Lecourt-Grandmaison, donc à l'instant là, un extrait de la prise de parole de Jules Ferry en 1885 à l'Assemblée nationale française. Vous parliez d'une mythologie qualifiée d'immunitaire, qui était l'une des, comment dire, des qualificatifs possibles de ce roman national. Immunitaire, c'est-à-dire que on ne peut pas lui reprocher, par exemple, d'envahir des pays. On ne peut pas lui reprocher d'être une force impérialiste, une conquête dévastatrice. Ce n'est pas possible parce qu'elle est immunisée par sa supériorité et par sa grandeur.
Alors oui, j'utilise le syntagme, qui est plutôt un concept de mythologie immunitaire, pour désigner ceci que. En effet, la France, en raison de ses traditions prétendument glorieuses, fille aînée des Lumières, de la Révolution et de plusieurs républiques, ne peut pas, non pas forcément par essence, mais au moins par histoire et tradition, ne peut pas opprimer, ne peut pas exploiter et ne peut pas dominer. Le discours de Jules Ferry en témoigne remarquablement en précisant deux choses. La première, c'est que ce discours, à juste titre, peut et doit être interprété comme un discours de justification de ce qui va être la course à l'Afrique après la conférence de Berlin de 1885, mais il doit être aussi considéré comme l'expression très synthétique de ce qu'il faut appeler aussi un racisme républicain, dans la mesure où Jules Ferry ne doute pas, mais comme une très grande partie des élites politiques, universitaires et scientifiques de la Troisième République, de la hiérarchie du jeu romain. Il ne doute pas non plus, évidemment, de la supériorité des Blancs, de la supériorité de l'Europe, et à l'intérieur de cette supériorité, il ne doute pas de la supériorité de la France.
Qui incombe, selon lui, des droits et des devoirs. Les races supérieures ont des devoirs, et parmi lesquels l'apport de la civilisation aux races inférieures. C'est texto ce qui est dit dans ce discours.
Tout à fait. Alors, il s'agit pour lui à la fois de justifier la conquête impériale qui va commencer, et il s'agit de la légitimer en distinguant cette conquête impériale de la conquête impériale menée par la Grande-Bretagne et l'Espagne, qui sont réputées avoir été des conquêtes impériales particulièrement meurtrières, là où la France est réputée, et le discours là aussi présente toute une série d'invariants par la suite, là où la France est réputée conquérir pour civiliser, conquérir pour élever, conquérir, alors c'est le vocabulaire officiel de la Troisième République, conquérir pour mettre en valeur les territoires conquis. En précisant que le syntagme de mise en valeur vise à faire entendre ceci, que il s'agit de mises en valeur qui profitera d'une part à ce qu'on appelle les populations indigènes, d'autre part aux colons, pour ce qui est des colonies de peuplement, et évidemment aussi à la métropole. Juste revenir un tout petit peu en arrière pour montrer les liens qui existent entre la construction de l'Empire et la crainte de la Révolution. Ce mot d'Ernest Renan, dont il faut rappeler qu'il est une personnalité à la fois politique, littéraire, et académique, puisqu'il est professeur au Collège de France, extrêmement importante, et qui dit à peu près ceci: une nation qui ne colonise pas est vouée au socialisme. Quand Ernest Renan écrit ceci, le socialisme auquel il pense, c'est la Commune de Paris. Et Victor Hugo va également tenir des propos similaires. Et effectivement, la construction impériale est pensée comme une façon de contribuer à la résolution de la question sociale par exportation, alors degré dans certains cas, puisque un certain nombre de communards ont été exportés, si je peux dire, c'est-à-dire déportés dans des colonies, notamment de la Nouvelle-Calédonie, et degré ou de force, degré dans certains cas, puisque la Troisième République va effectivement mobiliser des moyens financiers, juridiques, politiques très importants pour le développement de colonies de peuplement et notamment le développement de l'Algérie.
Mais ça veut dire, Olivier de Courgrand-Maison, que nous qui explorons aujourd'hui en 2025 avec vous les origines de ce roman national, et on était tout à l'heure donc à l'Assemblée nationale en 1885, dès lors, il y a une intrication totale entre ce roman national et le mouvement colonisateur. Ça va ensemble, ça n'est plus dissociable.
Le discours de Jules Ferry, antérieurement la déclaration de Ernest Renan, le discours de Victor Hugo, un grand texte qui s'appelle « Grandeur et servitude coloniale », qui est un texte publié en 1931 à l'occasion de l'exposition coloniale universelle. Son auteur est Albert Sarrault. Alors aujourd'hui, passablement oublié, mais Albert Sarrault n'est pas une personnalité marginale du tout de la Troisième République. Il a été gouverneur général de l'Algérie, plusieurs fois ministre des colonies, plusieurs fois ministre de l'Intérieur et président du Conseil. Et dans cet ouvrage, Albert Sarrault se fait l'apologue effectivement de la construction coloniale et impériale française, en effet, que sa singularité, c'est d'avoir été constamment porté par l'universel, par le souci d'autrui, par l'expression n'est pas forcément utilisée, mais c'est bien cela qu'il s'agit, par des mains tendues aux indigènes qu'il s'agit d'élever. Quand je dis ça, mains tendues, je sais pourquoi je le dis, c'est parce qu'on retrouve aujourd'hui ce discours apologétique de la colonisation, non pas seulement du côté des extrêmes droites, comme cela est dit trop souvent, mais du côté des droites de gouvernement radicalisées. Et je pense en particulier à un discours de Bruno Retailleau qui déclarait à peu près ceci: oui, bien sûr, il y a eu des pages sombres de la colonisation, mais c'était l'expression employée, disait-il, il y a eu des mains tendues. Et il s'agit là aussi, là encore, de faire entendre ceci que, alors, en précisant que là aussi, le discours impérial républicain a évolué. Il reposait préalablement et précédemment sur la négation des crimes coloniaux commis par la France. Il repose aujourd'hui sur la dénégation. C'est-à-dire, on reconnaît certains éléments, certains crimes commis, mais ces crimes sont toujours pensés comme étant liés à des comportements individuels. Ils ne remettent jamais, ils n'ont jamais pour origine l'armée et moins encore l'État.
L'État.
Ce qui confirme effectivement la puissance de cette mythologie immunitaire. Oui, la France a pu commettre dans certains cas des crimes, mais ces crimes relèvent d'initiatives individuelles, ce qui fait que la France, et la République en particulier,
reste inattaquable.
Reste innocente, reste pure, par conséquent, toutes celles et tous ceux qui cherchent à faire entendre un autre discours sont immédiatement taxés d'exagération.
Et sont des mauvais enfants de la République si l'on reprend le grand personnage de la mère patrie que vous convoquiez, Olivier Le Courgrand-Maison. Là, on fait un saut donc au début même des années 2000. Vous dites souvent que ce n'est pas rien, que le geste politique de s'occuper du récit national, mais de s'occuper jusque dans la loi, de savoir qu'est-ce qui est transmis, est un geste très important et qui montre le souci des politiques et des dirigeants contemporains très fort de ce récit national.
Alors, relativement à, au passé colonial de la France, rappelez que ça, là aussi, là encore, il ne s'agit pas simplement de textes ou de récits. Il s'agit aussi de lois.
Oui, c'est pour la ça loi que du je 20... mentionne.
Absolument, la loi du 23 février 2005 établit effectivement une interprétation officielle du passé colonial français, qui était une interprétation apologétique. Et rappelez que sur ce point, la France est une double exception. D'une part, parce que la France est la seule ancienne puissance coloniale où une majorité de droite a jugé bon d'établir une interprétation officielle de ce passé impérial et colonial, et que par ailleurs, autre exception, si l'État doit en certaines circonstances assumer des tâches économiques, financières et sociales, au regard des principes libéraux qui sont les siens, s'il y a bien une chose qu'il ne doit pas prendre en charge, c'est effectivement l'établissement d'une interprétation officielle de ce passé. Or, la loi du 23 février 2005 objective cela et officialise cela. Je rappelle l'article premier de la loi, les juristes disent... comme le législateur, selon l'expression consacrée, que l'article premier d'une loi doit exprimer la philosophie de la loi.
Oh non,
en fait de philosophie, il n'en a pas le début du commencement. Ce qui s'exprime dans l'article premier de la loi du 23 février 2005, c'est une représentation parfaitement mythifiée du passé colonial français. Et le terme « œuvre » est employé. Et il n'y a pas besoin d'être un philologue de haute volée pour comprendre que le terme « œuvre » tel qu'il est employé dans le texte de la loi emporte évidemment une acception positive. Et par ailleurs, beauté admirable du français et de ses capacités féminisantes inoubliables, ceci que dans le même article est signifié les autres territoires passés sous la souveraineté française. Ce qui permet d'occulter complètement les moyens par lesquels ces autres territoires sont passés effectivement sous la souveraineté française, c'est-à-dire par la force des armes et dans certains cas, la force du sabre et du goupillon.
On va entendre la voix de Hafid, qui est auditeur du Book Club. Il vous a lu, Olivier Lecourt-Grandmaison, il a lu votre livre La fabrique du roman national républicain et vous adresse une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Olivier Lecourt-Grandmaison. La lecture de votre livre m'a éclairé sur plus d'un point, notamment sur la manière dont l'élite de la Troisième République va s'appuyer sur ce narratif fondée sur ces deux mythologies que sont l'universalisme et l'exception française. Votre retour sur la genèse de ces mythologies et la mise en lumière de la reprise de ce discours par une partie de l'élite d'aujourd'hui font prendre la mesure de la distance entre le discours et la réalité. Cette même élite qui prétend que l'immigration est l'une des causes de la décadence française. Alors, ma question est: pourquoi les enfants des immigrés issus des pays anciennement colonisés sont exclus de cette France commune? Merci pour votre réponse.
Et merci Hafid pour cette lecture et pour cette question, Olivier Lecourt-Grandmaison. Peut-être on peut d'ailleurs préciser ou augmenter la question de Hafid qui dit pourquoi est-ce que les enfants issus des populations anciennement colonisées par la France sont exclus du roman national? Mais d'abord, sont-ils exclus?
Alors,
il y a une évolution du roman national sur cette question-là.
Alors, il y a une évolution du roman national républicain sur ces questions-là, relativement aux héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, comme on le dit aujourd'hui. Il y a une certaine intégration de la présence des immigrés.
Vous parliez d'une très grande adaptation. Toujours au contexte historique, on peut considérer que c'est une très grande adaptation.
Alors, c'est
au contexte
une...
historique.
Oui, enfin. Adaptation et poursuite de la mythologisation, dans la mesure où ce qui perdure, c'est le grand mythe impérial républicain, celui de la France terre d'accueil, selon lequel, depuis qu'elle existe, en tout cas depuis qu'elle est république, la France serait cette douce France terre d'accueil qui accueillerait toutes celles et tous ceux qui, pour des raisons diverses, fuient leur pays d'origine et qui auraient accueilli ce qu'on appelait les indigènes avant 1945, les Français musulmans d'Algérie après. C'est oublier les conditions dans lesquelles ceux-là sont venus en France. Et sauf à mésuser radicalement du terme accueil, il paraît difficile d'employer le terme accueil pour signifier les conditions dans lesquelles les Français musulmans d'Algérie, je précise que ces Français musulmans d'Algérie sont des citoyens français. Il me semble difficile de considérer qu'ils ont été accueillis après 1945 dans la mesure où ils vont peupler dans les environs de Paris, et notamment du côté de Nanterre, de très nombreux bidonvilles dans des conditions absolument exécrables. Et on oublie trop souvent que ceux qui sont qualifiés de Français musulmans d'Algérie, encore une fois, sont des citoyens français. Il faut s'arrêter un instant sur le syntagme. Ça veut donc dire que pour les élites politiques, juridique de la 4e et de la 5e République, contrairement au grand mythe selon lequel la communauté nationale est composée d'individus libres et égaux en droit, ces élites, à l'intérieur du corps national, délimitent une communauté, ou qu'ils tiennent pour telle, qui est identifiée à partir de caractéristiques ethno-raciales et de caractéristiques religieuses, français et musulmans d'Algérie, et cette communauté, en raison des caractéristiques qui lui sont imputées, va faire l'objet de traitements singuliers. Alors, relégation dans des bidonvilles, les études montrent que ces Français musulmans d'Algérie subissent ce qu'on appelle aujourd'hui toute une série de discriminations systémiques. Et puisque il s'agit d'une émission littéraire, c'est une façon de lui rendre hommage. Claire Etchirelli, dans ce très beau roman « Élise ou la vraie vie », rappelle que les conditions qui sont faites à ces Français musulmans d'Algérie, dernier embauché, premier licencié, emplois les plus dangereux, qui subissent, à la différence de la classe ouvrière française, non pas seulement des discriminations dans les entreprises, mais qui subissent aussi des discriminations dans la vie civile pour trouver des logements, subissent déjà des contrôles au faciès. Intégration et mythologisation, mais rappelez qu'il y a quelque chose qui pour le moment n'est pas intégré au grand roman national républicain, alors même que cela fait l'objet de revendications significatives et anciennes défendues par les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, c'est-à-dire la reconnaissance des crimes commis par la France, notamment en Algérie, je pense au massacre du 8 mai 1945, entre 35 et disons 35 000 morts. Je pense au massacre du 17 octobre 1961, qui n'ont fait jusqu'à présent l'objet d'aucune reconnaissance. Là aussi, là encore, sortons un instant des prétendues 12 frontières de l'Hexagone. En cette matière, la France n'est pas cette espèce de locomotive qui tire l'humanité vers un avenir radieux. Elle est à peine dans le wagon de queue comparativement à d'autres pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne,
plus la avancée Belgique. Sur le terrain de cette réparation ?
Oui, alors qui ont à la fois reconnu les crimes coloniaux et dans certains cas réparé financièrement une partie de ces crimes et érigé dans les anciennes colonies des stèles à la mémoire des victimes. Je pense en particulier à ce qu'a fait la Grande-Bretagne consécutivement à la guerre des Mao-Mao, la Grande-Bretagne ayant érigé à Nairobi une stèle à la mémoire des victimes. Et quand on compare cette situation à celle de la France, on se rend compte que les résistances très puissante, des élites politiques de droite comme de gauche, à ces reconnaissances demeurent extrêmement vivaces et perdurent.
Alors, ce qui nous permet peut-être d'en arriver, c'était moi qui avais créé cet aparté à la question de Hafid, sur qui disait pourquoi est-ce que les enfants de la seconde génération des personnes venues des anciens pays colonisés ne sont pas intégrés au roman national. Vous faites, Olivier Lecourt-Grandmaison, dans votre ouvrage, une analyse des usages qui sont faits de ce roman national. Alors, pourquoi ne pas intégrer ces deuxième ou troisième générations ?
Alors, en ce qui me concerne, je n'utilise pas le terme deuxième ou troisième génération.
Non, c'est lui qui le fait. Oui. Je reprends juste le terme mais de la fille.
J'entends bien. Pour une raison simple, c'est que les enfants d'immigrés de la première
heure
eux-mêmes ne sont pas immigrés. Ils sont nés en France et quelle que soit leur nationalité, qu'ils aient la nationalité française ou qu'ils soient étrangers, peu importe, ils ne sont pas des immigrés.
Je reprenais juste le titre, qui était prononcé par Hafid.
Tout à fait. Qu'ils soient perçus comme tels, et je ne parle pas là d'Hafid, mais qu'ils soient désignés par une partie des élites politiques comme issus de l'immigration et perçus à juste titre par eux comme stigmatisants parce que cela les renvoie systématiquement à leurs origines étrangères et au fond à l'idée implicite ou parfois explicite d'ailleurs qu'en raison de des caractéristiques qui leur sont imputées, caractéristiques ethno-raciales, caractéristiques religieuses maintenant liées à l'islam, et ils incarneraient au fond les nouvelles classes pauvres et dangereuses du XXe siècle et du XXIe siècle. Là aussi, là encore, il ne s'agit pas simplement de discours. Si l'on prend la loi destinée à lutter contre le séparatisme, cette loi, au fond, objective ce type de représentation. Il s'agit bien de faire entendre ceci, que certains et certaines sur le territoire français, en raison des caractéristiques ethno-raciales et religieuses qui leur sont imputées, feraient peser des menaces de séparatisme. Autrement dit, feraient peser des menaces existentielles sur l'unité de la République et sur ses valeurs, ce pourquoi il faut effectivement adopter ce qu'il faut bien qualifier de disposition d'exception et de disposition liberticide, puisque les premiers usages qui ont été faits de la loi contre le séparatisme ont débouché sur ceci, de l'interdiction de deux associations musulmanes, le CCIF et le collectif contre le racisme et l'islamophobie. Il n'avait pas besoin d'être grand clair là non plus pour se douter que cette loi allait servir aussi contre d'autres associations. Et rappeler, puisque Gérald Darmanin est à l'origine de cette loi et qu'en matière d'incrimination et de création d'incriminations nouvelles, il est particulièrement prolixe, puisqu'il avait forgé le syntagme terrible d'éco-terrorisme à propos de celles et ceux qui ont manifesté à Sainte-Soline, et que effectivement les soulèvements de la Terre ont failli être dissous au
les
nom...
Les soulèvements de la Terre, pardon, qui est le nom d'une autre association.
Absolument. Ont failli être dissous au nom de la loi contre le séparatisme, et l'on voit bien les usages parfaitement liberticides qui peuvent être faits désormais de cette loi.
Le Book Club continue.
Si avec tout ça, vous êtes...
Oh, vous pouvez le dire, allez-y,
je vous en prie. Non, je ne voulais pas que ça...
Le micro est ouvert.
Si
vous
n'êtes pas qualifié d'islamo-gauchiste et de wokisme, je ne sais pas ce qui...
Eh bien, on vous enverra nos courriers.
Avec plaisir.
À cette heure-ci, le Book Club se fait agenda et relais des rendez-vous. C'est la 15e édition du Festival Libre en littérature, du mercredi 8 octobre jusqu'au 28 novembre 2025. Chaque automne, depuis 15 ans, la Fédération des Cafés-Librairies de Bretagne organise un cycle de rencontres littéraires. Les libraires membres se rassemblent autour d'un thème qu'elle et il interprètent selon leur sensibilité. Cette année, la programmation convie 8 autrices et auteurs pour, je cite, « cultiver nos liens et inventer des communs ». C'est incroyable après tout ce qu'on s'est dit. Parmi les invités, Stéphanie Champvallon, Fabien Clouette, Juliette Duquesne, Emmanuel Lepage, Marielle Massé et Mariette Navarro. Il y a par exemple les soulèvements de la Terre qui sont invités, ou Charles Stepanov. On mettra tous les liens vers la 15e édition du festival Libre en littérature.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et on a assez peu parlé de musique, mais on aurait pu parler du rôle de la musique dans la fabrique de ce roman national républicain, Olivier Lecourt, Grand Maison. On a ici au Book Club un jeu qui s'appelle le grand jeu des pages musicales, et il s'agit de chercher des évocations musicales dans les livres que l'on lit. Nos auditeurs jouent avec nous, et auditrice, c'est Sandra qui a trouvé un air musical dans le livre « Soleil d'éternité » Joséphine Baker, paru en 2023 aux éditions Hello. C'est un texte de Stéphanie Baudin. Là-bas sous le ciel clair, il existe une cité au séjour enchanté. Et sous les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle, s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Par eux toujours, mon cœur est ravi. Une voix soprano sur la suavité de la mélodie, l'accent américain de Joséphine qui se mêle à sa gouaille toute parisienne, la coloration nostalgique du piano et de la clarinette. J'ai deux amours possède un style qui capte l'attention, séduit, touche d'une émotion sincère, entre dans l'esprit pour y imprimer les circonvolutions d'une époque. C'est une déclaration d'amour. Joséphine aime son pays. Joséphine aime Paris. Ma savane. La fabrique du roman national républicain, c'est le titre de votre livre, Olivier Lecourt Grandmaison. Il a paru aux éditions Amsterdam. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Pour l'évoquer. Au son aujourd'hui, c'était Dali Yaha et Julien Moulet. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club qui m'aide à penser, préparer, programmer ces émissions, en particulier aujourd'hui à Léa Weiss-Gruss et Cyril Marchand. Vous pouvez poursuivre la conversation sur le compte Instagram du Book Club, animé par Alexandra Laibegovic. Et nous écrire des messages à l'adresse mail lebookclub@radiofrance.com.